Les timbrés.
Les timbrés. Michel Soulier.
Association philatélique montpelliéraine. Les timbrés, Michel Soulier.
Pour cette nouvelle émission des timbrés, vous avez choisi, Michel Soulier, de nous parler du premier timbre français. Alors, quand a-t-il été émis ce premier timbre ?
Je pense qu'il faut rappeler, avant de parler du premier timbre, un certain nombre de choses, notamment ce qui se passait avant.
Allons-y.
Il faut savoir de toute façon que le premier timbre qui a été émis au monde, c'est en Angleterre, en 1840. Et on l'appelle, il est très connu, on l'appelle le penny black. Évidemment, timbre à un penny tout noir, comme son nom l'indique, représentant la reine Victoria. Et c'est Sir Rowland Hill qui est à l'origine de ce timbre. En France, avant le timbre, qui n'est apparu en fait qu'en 1849, eh bien, pour envoyer du courrier, on calculait le coût de ce service en fonction de la distance entre le bureau de départ et le bureau d'arrivée, et en fonction du poids de la lettre. En plus, traditionnellement, c'était le destinataire, et non pas l'expéditeur, qui payait le port de la lettre. Pour deux raisons. La première est une question de politesse. On montrait ainsi qu'on considérait que le destinataire avait une fortune suffisante pour payer son courrier. Et la deuxième raison, qui était beaucoup plus pragmatique, c'est que la Poste voulait être sûre de récupérer une partie au moins des coûts en ne délivrant le courrier que contre remboursement. Bon. C'était extrêmement compliqué, ça a varié au cours des siècles, ça a été très difficile. Donc, jusqu'en 1848. En 1848, Étienne Arago, qui est né à Perpignan, suite à la révolution de 1848, se retrouve directeur des postes. Et en tant que directeur des postes, sur tout le territoire français, il propose donc une loi. Et cette loi sera effectivement adoptée au mois de juillet 1848. Et cette loi stipule que tout courrier envoyé d'un bureau de poste à un bureau de poste aura exactement le même coût sur l'ensemble du territoire français. Donc la distance ne joue plus. Il n'y a plus que le poids qui va jouer puisqu'on aura des lettres plus ou moins lourdes.
Et cela a été valable, est toujours valable.
Voilà. Cela est toujours valable et 20 grammes pour la lettre simple, c'est ce qu'on appelle le port simple. Et ça date en fait de la loi de 1848. Et cette loi donc stipule que ça sera non plus le destinataire qui paye, mais l'expéditeur, puisqu'il va acheter un timbre et que le timbre justifie le paiement de la taxe de port ou du coût de port. Et donc, on décide que ce timbre sera émis le 1er janvier 1849. Et le 1er janvier 1849, les timbres sont mis en vente dans tous les bureaux de poste. timbre à sortir le 1er janvier 1849, comment fait-on ? D'abord, il faut choisir ce qu'on va mettre dessus. Donc, on avait bien sûr le modèle de celui du Penny Black de Grande-Bretagne, avec le profil de la reine Victoria, mais la révolution de 1848 n'a pas mis en place de président. Et il n'y aura pas d'élection présidentielle avant 1849. Donc on ne peut pas mettre une tête de président sur le timbre. Donc on réfléchit. Et puis on pense quand même à une chose, il faut que ça représente la France. Et la France, traditionnellement, est une nation agricole. Et donc on va choisir de mettre comme figurine, sur la figurine, un profil de Cérès, hein, la déesse des cultures et des moissons, qui représentera donc l'essentiel, finalement, des activités en France. Et on ne va pas se casser la tête, on va prendre la même couleur que les Anglais, on va prendre le noir. C'était une erreur, parce qu'on aurait dû se rendre compte que depuis que les Anglais avaient choisi le premier timbre noir, depuis, ils étaient revenus sur cette couleur pour des tas de raisons. Bon, enfin, le 1er janvier 1849, le Cérès à 20 centimes, puisque c'est le prix du port, noir, sort et est vendu dans tous les bureaux en France. Et bien sûr, la Poste a tout de suite pensé à une chose, c'est que si on met un timbre et si on le décolle et qu'on le recolle sur une autre lettre, on fait des économies, ce qui ne lui plaisait pas vraiment. Et donc, tout d'entrée, elle précise bien que ces timbres devront être oblitérés. Il faut mettre quelque chose qui montre qu'ils ont été utilisés et qu'on ne peut pas les réutiliser. Et pour oblitérer ces timbres, elle décide de créer une grille, un losange en forme de grille, qu'on appelle le losange grillé, qui servira donc à oblitérer les timbres. Le 1er janvier, l'administration des postes est en retard et les grilles ne sont pas arrivées dans les bureaux de poste. Donc, elle passe en toute urgence, fin décembre, une consigne pour oblitérer les timbres avec les cachets dont disposaient déjà les bureaux de poste. Noir sur noir, c'était pas terrible, ça se voyait pas trop, donc elle redonne une consigne le 3 janvier en disant « Non seulement vous pouvez utiliser le cachet, mais le mieux c'est d'utiliser une grande croix à l'encre qui déborde largement du timbre. » Et en fait, les grilles seront distribuées dans la deuxième quinzaine de janvier, à peu près dans tous les grands bureaux. Mais on a, pendant cette période de 15 jours, des tas de choses complètement extraordinaires qu'on appelle des provisoires de janvier, qui ne correspondent en fait qu'à des initiatives locales pour oblitérer les timbres. Donc, le 20 centimes démarre sa vie de timbre. Et il faut quand même savoir que la Poste a réalisé que la tradition depuis au moins deux siècles qui consistait à ce que le destinataire paye n'allait pas changer du jour au lendemain. Et donc elle a accepté, dans un premier temps, de ne pas pénaliser les lettres qui n'étaient pas affranchies. Et donc ces lettres non affranchies, comme ça existait auparavant, le port sera payé par le destinataire. Ça va durer pratiquement 3 ans. Et le Cérès noir à 20 centimes, le 20 centimes, lui va avoir sa vie jusqu'en 1852. Et en 1852, il y a un changement de tarif. On va passer de 20 centimes à 25 centimes. Et ce coup-là, la Poste a compris que le noir, c'était pas terrible avec des cachets noirs. Et donc, il va sortir en bleu. Un bleu foncé, et on va avoir un Cérès 25 centimes bleu foncé qui va lui prendre le relais pour les années qui suivent, et puis l'histoire va se continuer après avec les changements de tarifs, les changements de figurines. L'arrivée de Napoléon III va perturber un peu le cycle des Cérès, puis ça redeviendra, enfin on en reparlera peut-être un autre jour.
Toujours la même information, ces timbres sont visibles sur le site internet de l'association de Montpellier, association philatélique Montpellier-Rennes. Au revoir.
Au revoir.